Et bonjour, vous êtes bien sur Un lundi avec CQFD, nous sommes sur Radio Galère, il est midi. Nous sommes le 16 mars et dans ce numéro de CQFD de ce mois-ci, on retrouve un dossier spécial sur les municipales à l'occasion de ce mois d'élection. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec Malo et Elliot en studio.
Salut.
Salut.
Et à la technique, on retrouve Niel et Sonia.
Salut.
Hello.
Et Niel, pardon.
Niel, excuse-moi.
Niel.
excuse-moi.
Pas de souci.
Donc dans cette émission, on va parler du dossier sur les municipales que je vais présenter dans quelques instants. On aura aussi un article sur l'antifascisme, Tiamo Tutti Antifascisti, qui reviendra sur la nécessité de se défendre contre l'extrême droite. Et enfin, on terminera sur un article présent dans le journal qui parle de la lutte des classes et dans la bergerie. Voilà, c'est son nom. Qui revient sur les conditions de travail des ouvrières et ouvriers agricoles qui s'occupent des troupeaux.
Exactement.
Voilà, donc j'ai une petite question pour vous, vous qui êtes autour de la table avec moi. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Est-ce que vous avez manifesté samedi? Est-ce que vous avez voté dimanche?
Je t'en prie, vas-y Malou.
Super, c'est moi qui commence. Je suis allé faire la fin de la manifestation après mes cours samedi, effectivement. Et c'était sympa. Il y avait aussi une petite conférence vendredi soir où je suis allé voir sur un sujet anticarcéral. Et dimanche, franchement, j'aurais peut-être mieux fait d'aller à la plage parce que je suis allé voter et bon, voilà.
Est-ce que t'es allé à la plage, toi, par hasard, Elliot?
Alors, pas du tout. Moi, je suis allé à la manif aussi ce samedi. Ça faisait plaisir, il y avait du soleil, il y avait du monde. Et puis après, effectivement, pareil, à contre-cœur, je suis allé voter hier. Donc voilà, c'était un peu un week-end tranquille et mouvementé en même temps, je sais pas quoi.
Du côté de la technique, vous avez fait quoi, vous, ce week-end?
Ouais, pareil, manif, hein, la plage aussi, et aller voter. Premier tour des élections, le devoir citoyen, ça
le
qu'on
devoir
dit, non
citoyen, normalement. Voilà.
Aïe, aïe, aïe.
Le devoir citoyen, moi j'ai travaillé et puisque je sers le capitalisme très malheureusement et j'ai aussi manifesté parce que la manif a duré longtemps donc c'était chouette et voilà j'ai voté comme tout le monde aussi autour de cette table du moins.
Autour de cette table, pas à
et
Marseille.
Ben, on est tous des bons citoyens alors.
Ah c'est bien.
On va pouvoir passer sur le dossier des municipales, voilà qui est central un peu dans ce numéro de CQFD de ce mois-ci. Vous mettez surtout l'accent sur le pouvoir qu'ont actuellement et que pourraient avoir les communes. Vous abordez donc les municipales de manière assez large avec les évolutions historiques qu'il y a derrière le statut des communes, les enjeux démocratiques et économiques qu'on peut retrouver aussi à différentes échelles. Donc est-ce que Malou, tu peux nous en dire un peu plus sur ce dossier?
Oui, effectivement, on a voulu faire ce dossier rapport aux élections, mais à CQFD, on défend quand même une vision une forme de recul par rapport au concept d'élection. Donc on a développé trois articles, un premier par Livia Stahl sur l'impuissance des mairies, un deuxième par Gaël Desnos sur les listes citoyennes, est-ce que c'est un espoir pour la démocratie, plot twist non, et enfin un petit article sur le municipalisme libertaire, le communalisme libertaire qu'a essayé de promouvoir notamment certains candidats LFI, et donc on revenir un peu aussi sur cette séquence.
Ok, donc on voit bien que pour CQFD, les mairies c'est un peu un lieu de référence pour la démocratie. Ça représente pour beaucoup de gens une opportunité justement d'avoir une influence par rapport à d'autres élections qui sont verrouillées d'avance ou qui sont à des échelons plus grands. On a beaucoup de maires sans étiquette, des listes citoyennes. On voit donc plein d'initiatives qui cherchent à faire de la politique autrement. On en pense quoi à CQFD?
Ben ouais, effectivement, les mairies, il y a un enjeu. Il y a ce côté, on a envie d'y croire. Mais je pense, comme plein d'élections, il y a cette illusion un peu de quelque chose va changer grâce à ces élections. Et on voit souvent que c'est précisément une illusion. Donc, t'as parlé de différentes initiatives. Pour ce qui est des maires sans étiquette, on le voit, c'est souvent une façon d'euphémiser la position qu'ont ces maires. Donc, dans la grande majorité des cas, les maires sans étiquette sont des maires d'extrême droite. Ça arrive aussi que certains maires de partis traditionnels, PS, Les Républicains, préfèrent se présenter sans étiquette puisque le poids, l'image du parti a plus un impact négatif au niveau municipal qu'un impact positif. Mais donc, dire de faire de la politique autrement à partir juste d'une liste sans étiquette, c'est une énorme erreur, je pense. Et après, le deuxième élément qui est quand même différent, c'est les listes citoyennes. Comme je disais, Gaël a fait tout un article sur ce sujet-là et on peut en trouver quelques autres sur, notamment chez des confrères comme Alain Payet, où pareil, c'est un gros espoir de plein de citoyens de se dire si on vire les politiciens et qu'on met des gens de la vraie vie à la place, ça va changer les choses. Et oui et non, c'est-à-dire que en fait, ce qu'on constate souvent, c'est que les listes citoyennes, elles sont constituées essentiellement par des membres des classes supérieures, qu'elles ont rarement un programme de rupture, que quand bien même elles arrivent au pouvoir, elles se font rattraper par la politique traditionnelle, soit que les cadres de la politique les empêchent d'agir, soit même qu'ils n'ont soif que de remplacer l'élite politicienne déjà en place par une élite citoyenne qui ne change pas grand-chose à tout ça, quoi.
Voilà, donc à côté de ça, il y a la France Insoumise qui a remis en vogue un peu l'idée du municipalisme libertaire, emprunté à Murray Bookchin. C'est quand même une proposition qui est assez radicale, non ?
Ouais, alors ils ont même parlé de communalisme libertaire, qui est une notion effectivement véritablement radicale. Le truc, c'est qu'ils ont peut-être pas trop les moyens de cette notion-là, parce que LFI, qui propose des programmes intéressant comme toujours, mais reste un parti extrêmement étatiste et donc ça matche difficilement avec l'idée de communisme libertaire, qui est une notion développée par Murray Bookchin et qui était avant tout une idée de la seule démocratie possible, c'est la démocratie participative, qui n'est possible que à partir de l'état communal. Or, LFI n'a jamais eu pour programme de déléguer le pouvoir de l'État ou de détruire l'État central au profit de tout le pouvoir aux communes. Ça n'a jamais été son programme, ça a toujours été un parti plutôt centraliste, même la forme de son parti le montre. Et donc, réutiliser cette notion, c'était une forme de com' politique, réutiliser une notion qui est à la mode, notamment dans les milieux de gauche un peu radicale, pour servir une campagne qui, au mieux, on pourrait parler de municipalisme d'État, c'est-à-dire des municipalités qui servent de tremplin à un pouvoir de gauche étatique, mais pas plus.
Oui, voilà, quand bien même il y a une liste avec une grosse volonté de changer les choses pour arriver au pouvoir, c'est rarement facile de lutter au cœur de cette machine institutionnelle.
Ouais, et c'est là que les listes citoyennes, elles reviennent un peu sur... On peut aujourd'hui faire le bilan de ces listes citoyennes puisqu'on en a vu énormément à ces élections-là, dans un certain nombre de mairies, je crois qu'elles étaient au moins 3 à Grenoble par exemple. Mais et d'ailleurs, nous à Marseille, on avait à la base une liste citoyenne, la liste Archipel, c'était censé être une liste citoyenne. On voit un peu ce qu'elle est devenue. Mais par ailleurs, même quand ces listes sont composées de gens véritablement avec une grosse volonté de changer les choses, de faire de la politique autrement, de donner le pouvoir aux citoyens et tout ça... On voit que ça ne marche pas toujours aussi facilement que ça. Le cas de la mairie de Vaour, par exemple, dont a parlé Lampaillet dans un de ses numéros, c'est une mairie qui a réussi avec une liste citoyenne franchement de gauche à prendre le pouvoir, à mettre beaucoup en place pour inclure les citoyens dans le processus décisionnaire. Le truc, c'est que les militants déjà impliqués dans la vie politique ou associative n'avaient pas le temps de venir aux conseils municipaux. Les gens qui étaient moins politisés et qui font 40 heures semaine, ils viennent pas après le boulot ou pendant le boulot faire un conseil municipal. Résultat, c'est une liste qui s'est retrouvée avec des conseils municipaux remplis de retraités qui imposaient un agenda de retraités. Et donc sans mise en place d'un système économique qui permette de nourrir véritablement une démocratie directe au niveau municipal, bah, on retombe juste dans... une classe qui décide pour toutes les autres, là en l'occurrence la petite bourgeoisie rurale, quoi.
Donc tu dis que les mairies, globalement, elles sont pieds et poings liés face à l'État, voilà, il y a un problème de centralisme. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que c'est important de se battre contre le passage des mairies à l'extrême droite, notamment à Marseille, si elles sont si impuissantes que ça ?
Alors, je dirais plus que les mairies, elles n'ont pas le pouvoir de changer radicalement les choses. C'est pas en prenant le pouvoir à la mairie qu'on va transformer notre monde en un monde véritablement de gauche, voire révolutionnaire. En revanche, les mairies, elles ont quand même un pouvoir, c'est, notamment les mairies d'extrême droite, c'est un énorme pouvoir de nuisance. Et donc, dans ce domaine-là, c'est vrai que l'extrême droite s'y essaye fortement depuis les dernières élections municipales. On constate les bilans d'une mandature de toutes ces mairies, voire de plus de mandatures, puisque dans d'autres endroits, comme à Béziers, ça fait quand même un moment que l'extrême droite est au pouvoir. Et c'est toujours les mêmes constats, c'est que ces mairies ont le pouvoir de sucrer les subventions à qui ils veulent, et c'est toujours au même, donc les subventions aux associations culturelles, aux associations de solidarité, le flicage des racisés. Pour donner des exemples, à Béziers, toutes les subventions aux syndicats ont été supprimées. À Bédarit, c'est toutes les assos culturelles qui ont perdu leurs subventions. À Orange, 70% des associations jusqu'alors subventionnées par la commune ont perdu leurs subventions suite à l'élection de l'extrême droite. Et ce constat, c'est systématique en fait. Dès que l'extrême droite arrive au pouvoir, ils réduisent les budgets de toutes les associations. Donc on revient à un état régalien qui abandonne toute ambition politique autre que favoriser l'intérêt de la petite bourgeoisie économique du coin, quoi.
D'accord. Ben, merci beaucoup Malo pour nous avoir présenté un peu ce dossier sur les municipales. Donc c'est important, il y a l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir à Marseille. On va écouter une petite musique justement qui parle de ce problème démonter des idées fascistes dans notre ville.
Ah, tu le sais, cousin, à Marseille comme partout en France, dans tous les villages et dans tous les quartiers, il est urgent de reprendre la parole et de cesser d'avoir peur. Bou les gars ! La grande ville où je suis né, appelée Marseille par les Français, porte de l'Afrique dès l'Antiquité, elle fut construite par des immigrés. Depuis bien longtemps, elle vit en paix, dans le respect de toutes les communautés. Mais depuis 10 ans, dans la tête des gens, de drôles d'idées commencent à germer. Mais ma ville tremble, ma ville est malade, devant le Maine jusqu'aux Écalades. Ma ville tremble, ma ville est malade, devant le Maine jusqu'aux Écalades. Il y a des Arméniens, il y a des Algériens, il y a des Tunisiens, il y a des Italiens, il y a des Marocains, il y a des Comoriens. Ici se trouve rassemblé presque tout le genre humain. La cité a été bâtie grâce à ses millions de mains. Tout le monde vit sa vie et beaucoup s'y trouvent bien. La culture de ce pays qu'on appelle Occitanie a toujours su intégrer les gens de tous les pays. Vous n'êtes pas obligés de croire tout ce que je dis, mais je reprends mon argument, je développe, je poursuis. Car ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux Écalades. Ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux Écalades. Les gens venus de partout qu'on appelle l'immigrant, nous en avons pour voisins, certains sont nos grands-parents. Ils font leur bout de chemin et un jour ont des enfants, d'adorables chérubins avec de jolies mamans. Mais vous savez les enfants, ça va toujours grandissant. Et voilà qu'un bon matin, le bambin fête ses 3 ans. Il va nous parler enfin, toute la famille attend. Il ménage son effet, en fait il prend tout son temps. Il ouvre la bouche et dit maman j'ai faim avec l'accent. Et pourtant, ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux Écalades. Ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux Écalades. Tous les samedis, au stade Vélodrome, tous les supporters s'écrient comme un seul homme. Alléluia, on est tous avec toi, Alléluia. Les Marseillais seront toujours là. Pour qu'une équipe fonctionne, il faut qu'elle soit soudée. Et ça, je crois bien que personne ne peut le contester. Le jour vert, c'est bien mieux que de s'enfermer si c'est pas clair. Dès qu'on ne peut s'y retrouver, monsieur le maire, c'est à vous que je viens parler, c'est d'un repère dont ont besoin les Marseillais, respirer l'air. Je crois bien qu'il est pollué d'eau à la mer. Nous ne pouvons plus reculer, alors ouvrons un grand débat. Parlons d'identité, montrons à tous ces pépons que nous savons ce que c'est. La province a des valeurs, j'ai dit l'hospitalité.
Voilà, c'était Massilia Sound System, ma ville est malade. Voilà, à Marseille, on a eu 35% pour le RN, donc on a beaucoup d'idées extrêmes droites qui montent. À ce titre, vous avez d'ailleurs un article en page 3 sur l'antifascisme.
Je voulais juste revenir avant sur une petite précision. Il faut féliciter Malo d'avoir nous avoir parlé 10 minutes des élections et du fait de voter, alors qu'il faut savoir que cette personne a quand même passé un dimanche d'élection en garde à vue, dont on taira peut-être les raisons pourquoi, mais s'il n'était pas franchement de base très pro-élection, donc il revient de loin ce
brave garçon, Malou.
Donc on le remercie.
Honnêtement, c'était mon meilleur dimanche d'élection, si je pouvais en faire que comme ça, ce serait mieux. Je me sentais à ma place.
L'accro au garde à vue.
Merci Malou de nous avoir parlé des élections malgré ce terrible dimanche. Donc on passe sur l'antifascisme avec votre article en page 3, Ti amo tutti antifascisti, qui revient sur d'abord la mort de Quentin Derenck. Donc c'est un article sur lequel vous traitez de la reprise médiatique faite à la fois par du coup, les médias et les politiques, qui ont eu pour but de criminaliser les mouvements antifascistes, mais aussi de diaboliser l'extrême droite. Eliott, est-ce que tu peux nous en parler un peu du coup?
Du coup, n'a pas été très original dans le sens où il y a beaucoup de médias qui ont fait ça. Mais du coup, effectivement, on revient sur la mort de Quentin Derenck, du coup, le 12 février dernier. Et en fait, après aussi, effectivement, dans la continuité, soit l'Assemblée ou même les médias qui se sont empressés de rendre hommage tout simplement à un nazi. Ça n'avait pas été fait depuis les années 40, donc en France en tout cas.
C'est ça, on n'a pas été très original, mais il faut dire que quand même dans les premiers jours après sa mort, il y a une grande partie du spectre médiatique, même jusqu'à Mediapart, qui fait un super travail d'enquête, mais qui là, pour le coup, disait que cette mort était une insulte à notre humanité commune. Enfin, c'est des mots quand même qui sont assez forts. Et donc, ce n'est pas forcément le parti pris qu'on a choisi de défendre à CQFD, celui qui était très largement majoritaire, y compris à gauche, quoi, dans les médias et politiques de gauche.
Ouais, effectivement, nous on a plutôt choisi de rabâcher un peu l'inverse. En fait, il faut.
On est des rabâcheurs.
On est des rabâcheurs. Ouais, il faut continuer de soutenir en gros toute initiative antifasciste face à la montée du fascisme, justement, parce que la violence antifasciste est tout simplement une violence qui est en réaction en fait à la violence fasciste, notamment. Bah, là, le contexte lyonnais est un exemple parfait. Parce que ça fait plusieurs dizaines d'années maintenant que le fascisme en a fait un peu sa capitale. Hein, et du coup, il y a pas mal de groupes qui se sont construits en réaction à ça. Que, en fait, notamment dans notre article, Hugo Paletta, on cite Hugo Paletta qui le rappelle très bien, et Frédéric Lordon, qui rappelle très bien que cette violence est contextuelle et qu'elle est en réaction, et qu'en fait, c'est une nécessité pour les gens de se défendre face au fascisme. Et d'ailleurs, dans ce contexte d'élection, il y a plusieurs initiatives en France qui ont vu le jour pour essayer de bloquer le RN, en tout cas faire une contre-campagne antifasciste pour celles et ceux qui ne se retrouvent pas dans l'intéressant programme de LFI, comme disait Malo.
MDR.
Non, je taquine. Non, mais du coup, pour ceux qui ne se retrouvent pas dans l'électoralisme, y a pas mal d'initiatives, notamment à Marseille, là, chez nous. On va parler un peu de ce qu'on connaît, hein, mais il y a la Riposte antifasciste, qui est un groupe antifasciste marseillais, qui a construit une initiative notamment faite d'AG. En fait, chaque semaine, il y a des AG pour construire mobilisation, soit de manifestations, soit des contre-tractages, des collages. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une manifestation. Et du coup, c'est pas mal d'AG publics. Donc en fait, c'est pas... souvent, on a un peu l'image de l'antifascisme un peu confidentiel ou... Il faut absolument s'y connaître parfaitement pour pouvoir militer. Là, ce n'est pas le cas, ce n'est pas l'initiative. Et en fait, cette initiative s'est un peu construite aussi dans la continuité de l'initiative que ça fait des quartiers antifascistes qui ont été construits il y a 2 ans, où en fait, plusieurs collectifs marseillais ont, notamment avec la Riposte, qui ont... initier en fait des comités de quartier antifascistes. Alors ça n'a pas pris partout, mais il y a aussi, si vous êtes marseillais, vous pouvez rejoindre, il faut regarder dans votre coin s'il y a un comité de quartier, mais vous pouvez rejoindre des comités de quartier antifascistes pour continuer aussi cette mobilisation au-delà des municipales. Parce que voilà, il faut quand même rappeler qu'à Marseille, donc l'extrême droite était au coude à coude avec le maire sortant Benoît Payan. Non, pas rien, ça. Et du coup, en fait, là, il faut aussi rappeler que l'extrême droite à Marseille, c'est quand même, au-delà d'être raciste, hein, c'est quand même des gens qui sont pas du tout compétents. Notamment, il y avait Mars Actu qui avait fait un article qui reprenait toutes les prises de parole et puis toutes les maraudes de l'extrême droite marseillaise et qui était pas mal orienté sur le national. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas à faire la différence entre les compétences municipales et les compétences nationales. Et puis voilà, après aussi, on a quelques fachos célèbres à Marseille, notamment Stéphane Ravier, qui est sénateur et aussi conseiller municipal.
La chance.
qui lui, il réhabilitait carrément le maréchal Bugeaud, qui est un maréchal qui a commis des crimes de masse en Algérie pendant la colonisation. Je vais citer quand même Ravier, il a quand même dit qu'il avait une autre version de la part des historiens. Et qu'il a ajouté gloire, honneur et reconnaissance éternelle à Thomas Bugeaud. Voilà, c'est un peu le. Tu voulais parler, Nil.
Ouais, je voulais te demander, du coup, est-ce qu'on préfère les racistes compétents ou les racistes incompétents?
Bonne question. Aucun des deux, je pense. Mais voilà, il faut. Il faut quand même rappeler que c'est quand même un danger qui est prégnant, que ce soit à Marseille ou ailleurs en France. Et que. Il faut un peu se renseigner, mais il y a pas mal d'initiatives antifascistes, que ce soit à Marseille ou autre part, que vous pouvez rejoindre. Et d'ailleurs, voilà, si vous êtes à Marseille, mardi prochain, mardi 17, il y a encore une AG. Du coup, c'est de la riposte antifasciste.
Où ça ?
Je vais te dire ça tout de suite.
Ah. On fait de l'information en direct.
C'est bon, c'est à la Bourse du Travail à 18h30, donc 23 boulevard Nédélec, le 17 mars. Et voilà, si vous voulez vous organiser en cet entre-deux-tours.
Du coup, ça se passe comment pour du coup leur contre-tractage? Ils appellent à voter pour quelqu'un quand même, vu que c'est une élection, et où ils appellent à voter contre, ils font quoi? Ou nini?
Ouais, c'est un peu, c'est pas une initiative électoraliste, du coup, c'est plutôt le contre-tractage pour en gros rappeler les dangers en fait du fascisme d'avoir en fait le RN au pouvoir, que ce soit d'un point de vue municipal ou national. Et du coup, c'est plus là où les tracteurs, j'allais dire, c'est pas du tout le bon terme. Là où les gens, les colistiers ou les militants du RN vont tracter, bah du coup les antifascistes essaient d'être présents pour contre-tracter et informer les gens, notamment je pense à la place Sébastopol qui est un peu assez connue à Marseille pour être un peu une place pas mal fréquentée par les militants du RN. Donc voilà, c'est pas mal de collage, contre-tractage pour rappeler le danger, plus qu'appeler à voter.
Mais du coup, c'est aussi une manière détournée d'appeler à voter, non? J'ai l'impression que c'est un peu se refuser de le faire tout en le faisant, finalement.
Il n'y a pas de consigne, hein, c'est vraiment, tu votes si t'en as, si tu penses que c'est une bonne manière de contrer le RN, tu votes.
Bah, et puis peut-être que si on est suffisamment nombreux, ils auront trop peur et ils s'en iront.
Exactement, c'est un peu l'idée aussi, c'est un peu antifascisme de rue, quoi, c'est vraiment de... effectivement, d'occuper l'espace pour invisibiliser le RN.
Après, pour tout dire, ils n'ont pas attendu le premier tour pour se mobiliser quand même, tous ces gens-là.
Oui, bien sûr, bien sûr.
C'était un travail de long terme qu'ils font de manière générale, et leur ennemi, c'est le fascisme. Donc ils continuent même en cette période d'élection. Je pense que la question de pour ou contre voter cette vieille flaque de vomi de Payan n'entre pas forcément en compte.
Ouais, c'est un peu la maraude, mais oui, il n'y a pas de consigne.
Ok.
Bon, eh ben merci. Voilà, c'est important de s'organiser. Il y a vraiment le danger de l'extrême droite qui est au port du pouvoir à Marseille. Donc allez voir les différentes initiatives pour s'organiser contre cette montée des idées d'extrême droite. On va passer au prochain article qui s'appelle « La lutte des classes est dans la bergerie ». Donc c'est un article qui parle des conditions de travail des gardiennes et gardiens de troupeaux. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est qui sont ces bergers-bergères?
Bah alors c'est comme des bergers, sauf que quand on parle de bergers en général, on pense surtout à des gardiens et gardiennes de troupeaux de moutons. Sauf que là, c'est plus large que ça. Il y a aussi des gens qui gardent du bétail, des chèvres, enfin tout genre d'animaux. Donc c'est pour ça qu'on dit, en tout cas, eux portent l'expression gardien et gardienne de troupeaux et pas seulement berger ou bergère. Et du coup, en fait, eux, ce sont les salariés du monde agricole. Donc ils appartiennent à la catégorie ouvrier agricole. Ils sont pas propriétaires de leurs troupeaux. Donc les bêtes leur appartiennent pas. Et eux, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils gardent ces bêtes durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fait, souvent pendant l'été. Et donc, ils sont tout en haut de montagne et en pleine nature. Et comme ça, c'est un boulot qui se fait souvent à deux sur plusieurs semaines dans la nature à s'occuper de bêtes.
Ça a l'air génial comme travail dit comme ça.
Ouais, et c'est aussi ce qui attire au début beaucoup de personnes, parce que c'est un métier dans lequel les gens se lancent souvent assez jeunes et parfois aussi, enfin souvent en reconversion professionnelle, pour justement cet aspect nature, ce retour à la nature. Donc c'est au début ça commence comme un métier passion, comme on dit. Mais rapidement les gardiens et gardiennes ils déchantent en fait, et c'est un boulot où il y a énormément de turnover. Dans l'article, à un moment, une personne dit que c'est 3 ans en moyenne la durée, j'allais dire la durée de vie, mais pas la durée de vie, la durée de vie en tant que enfin, les femmes pratiquent pendant 3 ans et les hommes pendant 5 ans ce métier en moyenne, parce qu'en fait les conditions de travail sont pourries.
C'est-à-dire face à quoi ils sont confrontés en fait?
C'est-à-dire que souvent ils font des semaines de 70 heures qui sont payées 35 heures, donc les heures supplémentaires elles sont pas payées. Ça peut être des tours de garde qui durent 16 heures sans interruption. Faut savoir aussi que lorsque ils gardent les troupeaux en montagne, donc ils sont logés quand même. Ils sont logés dans des espèces de petites cabanes. Et en fait, les conditions, elles sont assez insalubres. Il y a un reporter qui a fait un reportage photo assez cool sur le sujet et qui montre qu'en fait, il y a des matelas qui sont rongés par les rats. Des fois, ils vivent dans des endroits où il y a des cheminées en amiante et avec des toits gondolés, tout humide, tout pourri. En plus de ça, les gardiens de troupeaux doivent payer leur propre équipement. Donc, c'est-à-dire que comme c'est en montagne, c'est de l'équipement qui coûte cher, les chaussures, les vestes contre le froid et tout ce qu'on peut imaginer. Ils doivent aussi s'acheter eux-mêmes leurs chiens, les nourrir. Et tout ça, c'est des frais qui ne sont pas, pris en compte dans leur rémunération. Voilà, donc il y a encore d'autres problèmes à côté, mais...
Oui, ils ont beaucoup de problèmes quand même. C'est des conditions de travail particulières.
Et Neil, fun fact, figure-toi que j'ai un frère qui est berger. Devine combien de temps a duré sa carrière de berger.
Est-ce que c'est dans la moyenne? Non, ça a duré 1 mois.
Non, ça a duré effectivement dans la moyenne, c'est-à-dire il a démissionné au bout de 3 ans.
D'accord. Ça me surprend pas que t'aies de la famille dans la bergerie.
On vérifie les infos à CQFD. Comment ça se fait qu'ils aient des conditions de travail aussi catastrophiques comme ça?
Je pense qu'il y a plusieurs explications, mais déjà c'est un boulot où les salariés sont très isolés face à leur patronat. Donc leur patronat, il est organisé au sein d'organisations syndicales qui sont la FNSEA, la Coordination Rurale ou la Confédération Paysanne. Donc c'est un métier qui pour le coup est très solitaire et sur lequel il y a assez peu de données finalement. Les gardiens et gardiennes de troupeaux eux-mêmes ne savent pas combien ils sont, parce qu'il n'y a pas d'observatoire national, et ils ne savent pas non plus combien il y a de morts par an, mais il y en a. Et donc ce qui fait tout ça, qu'ils ont du mal en fait, à peser dans les négociations qui ont lieu en commission paritaire à la chambre agricole. Voilà, exactement. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il faut négocier les conditions de travail de la branche au niveau départemental, avec justement ces syndicats patronaux, souvent la FNSEA, on leur refuse leurs revendications. Là, ça fait plusieurs mois qu'ils demandent une convention collective qui leur est spécifique, qui prenne en compte toutes les particularités de leur métier. Et donc, là, les organisations de propriétaires de troupeaux, souvent la FNSEA, parce que c'est le syndicat majoritaire, leur refusent systématiquement.
Est-ce que tu as pu les rencontrer pour en parler un peu avec eux justement?
Non, moi je ne les ai pas rencontrés spécifiquement, je les ai eu au téléphone, mais c'est Laetitia Guiraud, journaliste actuellement à la Marseillaise.
Oh la pub!
Voilà, qui a écrit cet article, et elle les a rencontrés à la foire agricole de Saint-Martin-de-Crau. Donc en fait, elle a rencontré plus spécifiquement le SGT, donc c'est le syndicat des gardiens et gardiennes de troupeaux, qui est affilié à la CGT, donc c'est un syndicat assez récent. Et eux, ils veulent justement en finir avec le mythe d'un monde agricole unifié face aux mêmes difficultés. C'est un peu la musique qu'on a eue ces derniers mois, qu'on a pu nous-mêmes, peut-être à des moments, une partition qu'on a pu jouer à CQFD. Et donc eux, au contraire, ils montrent que non, en fait, il y a des intérêts et des conflits de classe au sein même du monde agricole, du coup entre salariés et propriétaires des moyens de production. Et donc dans l'article, Laetitia, elle explique justement comment la SGT, ce syndicat, s'organise pour développer une conscience de classe chez les gardiens et gardiennes de troupeaux et pour arracher des nouveaux droits. Donc je peux que recommander la lecture de cet article qui est très cool.
Voilà, moi aussi je ne peux que le recommander. En plus, ça fait un petit lien avec le dossier sur la campagne qu'il y avait pour le CQFD de février, où justement vous traitiez un peu du problème global des ouvriers agricoles, et notamment de la manque de représentation dans les syndicats.
Mais précisément, c'était fait un poil remonter les bretelles pour... on en parlait, mais on n'en parlait pas encore assez au goût d'une des super camarades que j'avais rencontrées pour l'occasion. Et qui montrait comment, à certains moments, même la conf n'était pas toujours un allié pour eux.
Non, dis pas ça.
Faut pas dire ça.
Je rigole.
Ils sont sympas, les gens de la conf, mais juste montrer les limites de l'alliance des travailleurs dans un syndicat qui représente peu les travailleurs. Quoi.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Neil, merci beaucoup Sonia, merci beaucoup Malo et Elliot. On arrive
merci à
vous.
On peut dire les autres rapidement.
Ouais.
Les autres,
Voilà, on arrive à la fin de un lundi avec CQFD. On était donc sur Radio Galère 88.4 en FM et DAB+. Donc il y a d'autres articles présents dans ce numéro de CQFD. On a notamment l'article sur le procès de Fernando, qui était un ancien résistant contre Franco, qui est accusé de sabotage et de véhicule d'Enedis. Si j'ai bien compris, c'est un peu votre héros à tous maintenant, Fernando.
C'est Fernando, on prie pour lui.
C'est une légende, c'est une légende. Voilà.
Et aussi, très bon article sur la fermeture du marché du soleil. Voilà, où vous revenez assez longuement sur les conséquences et sur l'histoire du marché notamment. Et il y a plein d'autres choses intéressantes à lire que je vous invite à lire dans le CQFD de ce mois-ci. Merci beaucoup à tous.
Et on m'a demandé de donner le nom de la musique qui passe en virgule au début, et donc c'est Sous les réverbères de Ventre de Biche, celle-ci qu'on entend.
Au revoir.
Ciao.
Au revoir. Ciao, merci.